Ça va et toi?
Ça va très très bien. C'est cool de te recevoir. J'avais bien parlé avec Julie lors des Alsace Throwdown. On avait passé pas mal de temps ensemble ce week-end avec Claudia aussi. Et du coup, elle m'avait parlé de toi, de tout ce que vous faites. Et c'était intéressant pour moi de te recevoir sur le podcast pour voilà, parler de ce que tu fais, ton métier, coach, programmateur, gérant de box. Donc tous les sujets qui sont intéressants. Mais bon, avant de se lancer, je te laisse peut-être te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi.
Eh ben, bah, tu as déjà dit pas mal de choses, hein. Donc, comme tu dis, bah, maintenant j'ai 37 ans, bientôt 37 au mois de septembre. Bah, voilà, gérant de boxe, j'ai créé la programmation Field Process, alors officiellement à partir de 2019, mais on va dire que je programmais depuis 2014.
OK.
Donc voilà, ça faisait un petit moment que je faisais de la programmation déjà. Après, bah, bien tout nouveau papa aussi, mine de rien, ça.
Félicitations.
Merci. Ça prend du temps dans les journées maintenant, donc c'est bien de le mentionner.
Tu m'étonnes.
Puis voilà, sinon qu'est-ce que... Bah, après, je peux... On a participé aux Games en 2021 avec la team Jonas. On
Ouais.
a fini troisième, donc j'étais content d'être le coach de cette team.
Ouais.
Et puis voilà, j'étais aussi allé aux Games avec Carole en individuel en 2019,
Ouais.
toujours en tant que coach. Donc voilà.
Super, un beau palmarès en tout cas. Bravo pour tout ce que tu as pu faire jusqu'ici. J'aimerais parler, ça va pour toi un petit peu des games qui viennent de se terminer. À mon avis, enfin, de mon point de vue, pour te donner un peu de contexte, j'ai fait du rugby, j'ai fait des sports co étant plus jeune. Après, j'ai fait du crossfit pendant un an et demi. La compète, ça m'avait jamais vraiment intéressé. Par contre, je me suis vraiment plongé dedans. C'était vraiment il y a 10 ans en arrière avec les James Fitzgerald, avec Max Elhadj qui était encore avec James. C'était vraiment quand avec Kalipa qui était là et tous les anciens. Et j'ai toujours suivi le sport d'assez près. Là, je me retrouve à remettre un pied un petit peu dedans en travaillant avec quelques athlètes dans le sport. Et j'ai vraiment adoré la prog des Games cette année. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant par rapport à. Alors, pas que les autres années, c'était chiant, hein, je ne veux pas le contraster comme ça, mais c'était vraiment juste super, à mon avis, bien programmé, du peu que je connais de la programmation CrossFit. Et donc, avec toute ton expérience dans le domaine, je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur le sujet. Qu'est-ce que tu en as
Ouais,
pensé?
moi je suis d'accord, j'ai vraiment adoré aussi cette année-là. C'est comme, je suis d'accord avec toi, hein, c'était un peu redondant les années précédentes. Enfin voilà, c'était un peu du déjà vu. Voilà, on savait qu'il allait avoir une épreuve de force, un peu toujours une barre qui était là. Enfin, donc là, le sandbag, c'était, enfin, pour moi, c'était vraiment fabuleux.
Ça change des grosses barres en 1 ou 3 RM. C'était vraiment
Exactement.
c'était une petite variation, tu vois, parce que c'était quand même un effort max, mais au final, pour le show, c'était top, quoi.
Ah non, mais carrément. Et puis moi j'ai bien aimé aussi le retour un peu au basique, les single under.
Ouais.
Quand je vois la galère que c'était pour beaucoup d'athlètes, je me dis j'ai hâte que l'année prochaine ils nous proposent du keeping obligatoire. C'est un
Ouais,
peu mon rêve.
ok.
Donc, enfin voilà, le retour un peu au basique, je trouve c'est parfait. Donc ouais, non, franchement, la programme, moi j'ai adoré. Le Watt du Capitole était top. Enfin, non, franchement. Je pense qu'il était un peu attendu au tournant, le programmateur. Donc, vu que
Ouais.
c'était un peu le changement, donc franchement, il a fait vraiment un super truc. Moi, j'ai vraiment apprécié.
Et ton WOD préféré, c'était quoi du week-end?
Ouais. Mon WOD préféré, ouais, j'ai bien aimé la finale, moi.
Ok.
Tu vois, finir. Enfin, moi j'avais bien aimé aussi l'année où vous avez fini avec tous les benchmarks. Je ne sais pas si tu te
Ouais,
rappelles, c'était en
je me
2000.
rappelle, ouais.
Si je dis pas de conneries, 2014 peut-être.
Ouais.
Je crois que c'était ça. Donc là, toi, finir par Jackie, bon, un peu, voilà, c'était Jackie amélioré quand on est au Games, hein, tout simplement. Je trouve ça top. Donc j'ai vraiment bien aimé la finale. Après, franchement, il y avait plein de holds. Le bike, j'ai bien aimé aussi. L'épreuve natation, elle était top.
Ouais.
Non, franchement, c'était assez complet. Mais Jackie, voilà, le Jackie à la fin était cool. J'ai bien aimé.
Ouais, j'ai trouvé que c'était bien équilibré aussi la manière dont c'était distribué. J'aurais vraiment voulu qu'il fasse les legless avec le alpaca. Ça, je pense, ça aurait été mon préféré du week-end s'ils avaient pu faire avec. Je sais pas ce que ça aurait donné. Enfin, ça aurait été super intéressant de voir avec les legless, quoi.
Ouais, carrément, carrément, ça aurait été compliqué. Mais il y
Un
avait pas
truc.
mal de mouvements un peu. Il a innové un peu sur beaucoup de choses.
Ouais.
Alors, je pense qu'il y avait des prises de risque. Les double under crossover, là, c'était, je pense, une prise de risque. Mais au final, je pense que, comme d'habitude, hein, c'est sur le moment, tout le monde râle un peu. Et puis au final, Je pense que dans les box, ça fait déjà bah, depuis les games que tout le monde essaye de faire ça. Donc au final, c'est cool, tu vois.
Ouais, bah c'est ce que je voulais te demander, parce que comme tu l'as dit, il a amené pas mal de variations assez simples en fait sur des mouvements de base qu'on revoit tout le temps. Et pour un sport qui se dit constamment varié, au final, on sait quand même que on sait les mouvements qui vont revenir avec à peu de détails près. Mais là, le fait qu'il soit pas vraiment allé trop loin en fait. Mais tu
Ouais.
vois, les dips sur les barres parallèles après le passage en soutien bras tendu, les HSPU face au mur,
Ouais.
les pegboard legless, des petites choses. Est-ce que toi, ça t'a déjà fait penser, réfléchir à certains mouvements de base qu'on fait tout le temps dans le CrossFit, mais que tu cherches à voir un petit peu différemment pour justement amener un petit peu cette variabilité au niveau des mouvements?
Ouais, non, c'est que après, je trouve c'est. Alors, moi, en tant que programmateur, où je programme pour des gens. Alors, je programme pour quelques gamers parce que j'ai la chance d'avoir une team ou un indie qui est capable de se qualifier, mais c'est minime, quoi. Mais alors, la programmation générale, après, pour les athlètes, elle est un peu plus, on va dire, normale. Parce que dans les compétitions du coin, c'est les mouvements un peu traditionnels du CrossFit qui retombent. Donc c'est un peu différent. Mais oui, c'est sûr que pour l'année prochaine, quand je réfléchis déjà à la prépa aux Games en team, si on a la chance d'y aller, c'est sûr que ça fait partie des choses à réfléchir, à imaginer ce qui peut tomber, tester de nouvelles choses, sortir de la boxe. Enfin voilà, ouais, c'est obligatoire, je pense, si tu veux aller aux Games en tout cas.
Et peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent de ton point de vue, mais je pense même à la personne qui pratique le CrossFit pour l'aspect santé en boxe et qui ne veut pas nécessairement aller faire une compète locale où tu sais que tu vas avoir des butterflies, tu sais que tu vas avoir des thrusters, ou peut-être que là, en fait, c'est là l'opportunité d'amener plus de variations justement dans ces mouvements qui, au final, deviennent assez répétitifs si tu fais tout le temps les mêmes.
Ouais, non, c'est clair, je pense, enfin moi en tout cas, je programme aussi pour les box et dans les semaines à venir, c'est sûr que je vais mettre des single under dans des wod, alors que c'est vrai que je les mettais souvent en un peu comme les wall walk il y a quoi 2 saisons maintenant, une saison. Voilà, c'était en fait souvent un mouvement d'échauffement, mais qu'il a mis dans le wod et bah les singles, ça va être un peu pareil. Et on se rend compte que c'était pas si simple que ça. Et les HSPU dans l'autre sens, enfin. Toutes ces petites choses, je pense, c'est des choses qu'on va retrouver dans les programmations de boxe et c'est cool parce que bah voilà, ça amène une variété. Je pense qu'il y a des gens qui vont être du coup plus à l'aise là-dessus que les mouvements traditionnels, donc ça change un peu le truc, donc c'est cool. Ça varie, c'est bien, je pense que ça fait évoluer le sport. Hein.
Ouais, c'est bien. Est-ce que tu vois d'autres aspects du sport qui vont évoluer à l'issue justement de ces CrossFit Games et avec ce que Adrian a pu amener au niveau de la programmation, de la gestion et autres?
Bah, moi, pour moi, c'est vraiment les games, c'est vraiment sortir de la boxe et faire des choses qu'on ne fait pas du tout dans les box. Enfin, là, une box qui veut programmer tous les watts des games, c'est presque, enfin, c'est impossible de les faire vraiment comme c'est marqué parce qu'en fait, il y a besoin de sortir tout le temps, il y a besoin d'un VTT, il y a besoin d'une piscine, enfin, il y a des choses qu'on peut pas faire dans des box. Donc, c'est ça, les games, c'est vraiment sortir de la box au maximum. Et donc ouais, non, ça je pense que ça va évoluer. Moi, j'aime bien vraiment, comme je t'ai dit, le retour au basique. Donc j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est quand même souvent que dans les games il y a des mouvements qui reviennent très simples et on voit que c'est pas si simple que ça au final parce que les gamers le font plus parce qu'en fait c'est tellement un basique c'est c'est mis de côté. Donc voilà, le keeping, pourquoi pas, qui pourrait revenir, le strict pull-up, enfin, des choses comme ça qu'on voit de moins en moins, quoi.
Ouais, donc toi, en parlant de fondamentaux, justement, de ton point de vue dans une prog CrossFit, tu es programmateur, tu offres une prog pour plusieurs niveaux, pour des box et autres. Qu'est-ce qui manque de ton point de vue dans les prog en général ou dans simplement le processus d'entraînement de la majorité des CrossFitters, des fondamentaux qui, à ton avis, sont survolés et pas assez explorés, pas assez exploités?
Ouais, exactement. Moi, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la base, tous les mouvements stricts de manière générale. Après, beaucoup de travail barre à vide, voire même au PVC sur tout ce qui est haltéro. Enfin, tous les fondamentaux, en fait, il y a beaucoup de compétiteurs. Alors, pour parler de la partie compète, il y a beaucoup de compétiteurs qui prennent des progrès sans forcément avoir les bases solides techniquement ou de force en strict. Et du coup, ils se retrouvent souvent bah, plus plus coachés parce qu'ils font du free. Et en fait, bah, plus les années passent et plus l'écart grandit parce que les bases ne sont pas là. Et après, ça peut amener bah, des blessures, un ras-le-bol parce qu'on ne progresse plus. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont un peu dommages parce que je pense que si les bases étaient un peu plus présentes, même dans les programmations, même quelqu'un qui est plus trop coaché, bah voilà, il y a moins d'erreurs faites dans une traction stricte que dans du butterfly ou du keeping, quoi. Donc moi, on limite un peu la casse, je pense.
Et j'imagine que d'un point de vue de gestion de l'intensité, ça permet également d'accumuler plus de volume qualitatif sans nécessairement être au rupteur et du coup, bah, pouvoir garder toutes ces cartouches pour les grosses séances où on veut vraiment s'envoyer.
Ouais, exactement. C'est... Moi, souvent, ce que je dis à mes athlètes, hein, c'est que dans une saison, si tu fais aller 10% de ton entraînement à haute intensité, il faut que ça soit le max, quoi. Si chaque semaine, tu te mets dans le rouge à vouloir vomir à chaque quad, tu vas tenir aller un an pour les gros athlètes et puis après, tu vas exploser, quoi. Donc ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre parce qu'eux, ils viennent à la salle, c'est pour se mettre une mine. Mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment développer le côté athlète, faut qu'il arrive à comprendre ça assez rapidement parce que sinon, il va droit dans le mur, quoi. Et de l'autre côté, de la partie santé, c'est un peu la même chose. Alors ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les box, nous, dans la programmation, d'amener beaucoup de skills et un peu moins d'intensité de WOD vraiment à se foutre dans le rouge, mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente de ce qu'on voit un peu dans le crossfit où on dit toujours que c'est à haute intensité, mais oui, mais non, quoi. Donc voilà, faut savoir gérer, ça dépend de la personne combien de fois dans la semaine elle vient s'entraîner, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on peut pas juste dire oui, il faut faire de la haute intensité dans les watts, quoi. C'est un peu, faut arriver à gérer ça, quoi. C'est pas évident.
Bah, je pense qu'on a le même cheval de bataille, toi et moi, parce que ça fait des mois maintenant que je parle du travail de basse intensité et de son intérêt dans le conditionnement de manière générale, mais c'est transversal sur le crossfit, parce que quand tu parles de travailler la technique, les skills, eh ben, si tu le fais bien, c'est rarement à très haute intensité. Et du coup, encore une fois, ça te permet d'accumuler beaucoup de volume qui ensuite, en fait, sert de base et te permet de vraiment exprimer ton plein potentiel quand tu vas faire véritablement de la haute intensité. Et c'est marrant, j'ai fait un post là-dessus ce matin. Je pense qu'il y a une évolution aussi, et j'aimerais bien ton point de vue là-dessus, une évolution au fur et à mesure de, bon, je vais appeler ça une carrière, mais de la pratique d'un athlète en crossfit où quand tu débutes, eh ben, voilà, tu n'as pas une grosse cylindrée, tu es comme moteur. Et donc, même si tu te pousses, tu ne peux pas faire trop de dégâts. Mais plus tu deviens fort, plus tu deviens endurant, plus tu deviens performant, et plus en fait ta haute intensité va te coûter. Et au final, peut-être que la recette qui fonctionnait au début de « je vais me mettre 4 cartouches par semaine », eh ben, plus tu avances et plus tu fais de volume et plus en fait ta haute intensité est véritablement de la haute intensité de manière absolue, et moins tu peux te permettre tu peux pas te permettre en fait de garder la même approche que ce qui t'a emmené là où tu es maintenant.
Ouais, c'est sûr. Bah après, de toute façon, c'est souvent quand on commence, on dit, hein, il y a tellement de mouvements dans le crossfit qu'on est obligé de progresser. Peu importe ce que tu fais, tu peux avoir la pire programmation qui existe, tu vas forcément progresser parce qu'en fait tu vas juste pratiquer un nouveau sport, donc c'est facile de progresser. Après, le point dur, il va arriver au bout de 2 ans peut-être de pratique, où là si tu commences à faire toujours n'importe quoi, bah il va forcément avoir un plateau que tu vas avoir du mal à passer. C'est là où bah l'accompagnement, la programmation et d'autres paramètres, hein, le sommeil, la nutrition, etc., qui va rentrer en jeu. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Si tu fais 4 entraînements à fond, une fois que tu as 3-4 ans de pratique, ça va te faire très très mal. Ouais. Et puis, de toute façon, tu ne vas pas tenir. Hein. Généralement, les gens qui font ça, ils se blessent très rapidement, ou alors ils sont en sur-régime et souvent ils ont un ras-le-bol. C'est plus psychologique après qu'ils ont du mal à tenir. Quoi.
Ouais, et comme tu dis, sur-régime ou même du fait qu'ils essaient de pousser constamment, leur système nerveux s'autorégule et ils passent leur vie à 80% alors qu'ils pensent faire du 100. Ouais, et il suffit qu'ils prennent une semaine de vacances et ils reviennent et il y a tout qui explose parce que dans le bon sens, ils arrivent à casser des PB et tout parce qu'en fait, il leur fallait juste un peu de repos pour pouvoir… ils avaient trop de fatigue et ils n'arrivaient pas à manifester leur fitness. Ils avaient juste besoin d'un petit peu moins de charge.
Exactement, je connais beaucoup d'athlètes justement qui reviennent de vacances et ils disent ah, c'est incroyable, ça fait 2 semaines que j'ai rien fait et puis je suis en pleine. Bah ouais, mais en fait ça fait peut-être 1 an que tu te mets des mines pour rien parce qu'en fait ça c'est pas productif, quoi. Mais bon, ça, c'est une grosse bataille, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus dur à faire comprendre aux athlètes, quoi.
Comment justement est-ce que tu communiques avec des athlètes qui seraient dans cette situation où tu vois qu'ils surchargent leur semaine, ils font trop d'intensité? Parce que du volume, on peut en accumuler énormément tant qu'il est bien raisonné, bien structuré et encore une fois, tant qu'on ne fait pas trop d'intensité de manière générale dans la semaine. Comment est-ce que tu raisonnes ou coaches ces athlètes pour les aider à comprendre que en faire un petit peu moins, ça va certainement leur amener un petit peu plus quand. Dans la philosophie même du sport, moi je me rappelle des vidéos de Froening de l'époque où tu voyais qu'il faisait 9 entraînements par jour. C'est un
Ouais.
peu la course au volume, quoi. C'est un peu la course au volume. Donc, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre la perception de ce qui est nécessaire pour performer dans le sport et en fait ce qu'il faut vraiment, surtout pour des gars et des nanas qui sont performants déjà, c'est-à-dire peut-être faire un petit peu moins, mais faire un petit peu mieux.
Bah, moi, la meilleure solution que j'ai trouvée pour, en tout cas, à ma boxe et dans la programmation, ce que je propose, c'est que les gens soient coachés. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire un entraînement, ils vont jamais passer 2 heures dans la boxe à faire tout seul les blocs qui sont prévus. Donc, il y a forcément un coach qui va être là. Donc, c'est pour ça que nous, dans la prog, on a une partie qui est prévue dans la séance du jour, le WOD du jour de la boxe. Et en fait, déjà, tu as 1 heure où tu es coaché. Donc, le coach, il va forcément t'accompagner dans ce qu'il faut faire et l'intensité qu'il faut y mettre à ce moment-là. Donc, notamment la partie skill. Souvent dans la partie skill, je vais dire une bêtise, il y a un EMOM en gym à faire avec de l'haltéro, mettons, minute 1 des toast to bar et minute 2 des clean and jerk. Mais en fait, ce bloc-là, il peut être fait de 10 000 façons différentes. Même si tu as le nombre de reps qui est marqué et que chacun va faire le même nombre de reps, il y a l'intensité que tu y mets. Est-ce que tu vas faire du touch and go? Est-ce que tu vas faire du pick and drop? C'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu vas faire un broken toast to bar? Est-ce que tu vas casser? Est-ce que tu vas faire des options peut-être différentes que tu aurais fait si le coach n'était pas là? Enfin voilà, moi pour moi le coaching c'est la base. Être tout seul, c'est pour moi ça demande vraiment à l'athlète d'être hyper rigoureux, hyper discipliné et c'est pas évident même quand ça fait des années que tu t'entraînes. Enfin voilà, moi je le vois avec Julie ou Lucas par exemple qui s'entraînent depuis maintenant quelques temps, qui je pense s'entraînent bien, ils ont compris ce principe-là en tout cas, mais malgré tout ça peut arriver, voilà, enfin le coach pour moi c'est la base, hein. Dans tous les sports t'es accompagné, t'as un coach et c'est pas pour rien quoi, c'est que ça doit servir à quelque chose, sinon tous les gros athlètes auraient pas de coach, hein, dans tous les sports.
Comme tu l'as dit, avoir ce feedback, cet œil externe qui permet d'avoir un regard un petit peu neutre sur ce qu'on fait et pas impliqué. Parce que comme tu l'as dit, tu as la tête dans le guidon, c'est toi l'athlète, tu exécutes. Et pour se détacher de ça ensuite et avoir je ne veux pas utiliser nécessairement le mot maturité, mais avoir le détachement en fait émotionnel, de pouvoir juger en fait comment est-ce que je performe, comment je me sens, est-ce que la prog elle fonctionne. Comme tu l'as dit, il n'y a pas énormément d'athlètes au plus haut niveau qui le font. Je sais, si je ne me trompe pas, André Oudé, il manage sa propre programmation. Je ne sais pas si tu en connais d'autres qui le font, mais c'est vrai qu'il y en a peu, quoi.
Ouais, il y en a forcément qui le font, mais moi, mon point de vue, c'est quand même bien d'avoir un œil extérieur pour plein de raisons, hein. Pas forcément ce côté-là aussi. Ça peut être une partie technique, ça peut être une partie un peu aussi psychologique de discuter avec quelqu'un qui d'échanger avec les ressentis que tu as. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui font que pour moi, avoir quelqu'un qui est là, on peut appeler ça un coach ou appeler ça comme on veut, mais qui a en contraire un œil extérieur qui va t'aider à avancer, quoi.
Je voulais parler un petit peu de programmation individuelle et team. Donc, toi, tu manages sur les deux plans. Est-ce qu'il y a des grosses variations de programmation entre les individuels ou ceux qui veulent performer en individuel et ceux qui veulent performer en team ou pas nécessairement?
Bah, c'est alors il y a la grosse partie de toute façon, même en team, il y a quand même une grosse partie de prog indiv, parce que bah faut quand même que chacun soit assez fort pour faire partie d'une team enfin selon ce qu'on veut viser, mais voilà, la partie indiv elle est dans tous les cas importante. Après oui, la partie team, je crois on l'a vu cette année au Games, hein, Reykjavik était attendu et au final on voit que 6 mois d'entraînement en team ça suffit pas forcément pour vraiment faire une vraie team. C'est pour ça aussi que Mayhem, ça fait des années, là, ils s'entraînent tous les jours ensemble pratiquement. Il n'y a pas de secret, hein, ça fonctionne. Donc oui, nous, quand on y est allé, en tout cas, on avait le projet, on avait fait 1 an complet à s'entraîner. Alors pas tous les jours ensemble, parce que chacun a sa vie et il y a des impératifs, mais le plus possible, en tout cas, ils s'entraînaient ensemble, même si c'était une partie individuelle, mais en tout cas, ils étaient vraiment les quatre ensemble à s'entraîner. Donc oui, c'est, il y a une différence parce que déjà, ça t'aide, je trouve, de t'entraîner à plusieurs. Enfin, pour moi, c'est primordial et c'est la base de Fit Process, de ce qu'on a créé, c'est de s'entraîner à plusieurs, de faire tout seul son entraînement dans son coin. C'est un peu pareil, tu vois. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire ça, il va peut-être tenir 1 an, 2 ans pour les gros athlètes. Et au bout d'un moment, ils vont tous chercher à même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément de son niveau, mais juste à s'entraîner avec quelqu'un, à se challenger un peu. C'est presque obligatoire, quoi. Tout seul, tous les jours, c'est vraiment dur. Donc,
Donc,
pour répondre à ta question, ouais, il y a une petite différence entre team et individu, même si les bases sont quand même un peu communes, quoi.
après, j'imagine que du fait que quand tu es en team, tu peux vraiment t'appuyer un peu plus sur les autres. Donc, est-ce que tu dirais que, et c'est de loin pas un reproche que je ferais aux athlètes de team ou autres, mais est-ce que tu peux te permettre d'avoir un peu plus de faiblesse qu'un athlète qui va essayer de performer en indiv de ce
Oui.
fait-là?
Ouais, clairement, clairement, en team, tu peux arriver à t'échapper, à trouver un échappatoire sur quelques mouvements où tu es faible parce que bah, c'est ce WOD-là, il tombe, c'est pas de la synchro et du coup, bah, tu peux te reposer un peu sur les autres. Après, c'est un peu comme tout, hein, c'est risqué aussi parce que si ce mouvement-là, il tombe en synchro à 4, bah, c'est le plus faible de l'équipe qui va jouer. Donc, je pense que c'est quand même un pari risqué. Il faut qu'au maximum, chaque individualité de la team soit le plus fort possible. Mais oui, après, comme dans toute équipe, je pense dans tout sport d'équipe, la force de l'équipe, c'est le maillon le plus faible qu'il y a. Donc, il faut essayer de grappiller. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'athlète qui est le meilleur dans la team, lui, il peut se permettre, entre guillemets, d'être un peu moins performant, de faire un peu moins d'efforts. Parce qu'il sait qu'au final, il sera toujours au moins au niveau du moins bon de la team. Donc voilà, il est un peu plus relax, entre guillemets. Mais psychologiquement, la team, c'est quand même pas simple, je trouve. C'est parce que tu as l'attente des autres à côté. Tu peux pas dire, bon, bah, je rate mon WOD, c'est pour moi, c'est pas grave. Tu vois, tu as les trois autres à côté qui sont là. Donc ça c'est un peu plus. Alors, il y en a, ils préfèrent, mais il y en a, ils ont plus de pression en team. Ça dépend un peu des profils de chacun. Mais voilà, c'est pas simple non plus, quoi. C'est vraiment deux choses différentes.
Bah, parle-nous un petit peu du rôle de la communication dans une team, dans une compétition, et ce que toi tu as mis en place avec entre autres Genas pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que justement il n'y ait pas nécessairement ces moments où il y a, alors il y en aura de toute manière, mais de ne pas laisser la frustration, l'énervement, l'impatience ou autre, la déception prendre le dessus dans un moment de compétition.
Ouais, alors c'est compliqué, hein, c'est forcément. Après, je pense que ça dépend vraiment des athlètes que tu as dans la team, leur caractère qu'ils ont. Je pense ce qui est bien, c'est que vraiment chacun ait un rôle assez précis dans la team, que ça soit mis un peu dès le début en place, en fonction du caractère de chacun. Donc c'est là où le rôle du coach aussi est important, que chacun trouve sa place. Mais après, oui, après, quand un WOD, de toute façon, quand tu rates un WOD, il y a forcément des frustrations. Après, l'idée, c'est que si l'ambiance est bonne de base, si il y a un vécu derrière de la team, bah, tu passes ce moment-là un peu plus facilement que si il y avait déjà des petites tensions. Et bah, dès qu'il y a un couac, ça amplifie la chose, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est important de passer du temps ensemble. C'est pour se connaître, pour. Savoir les faiblesses de chacun, le caractère de chacun, pas aller titiller quelqu'un alors qu'on sait qu'il est déjà tendu là-dessus, toutes ces petites choses-là, quoi, pour que la vie en communauté se passe bien.
Et donc au final, ça veut aussi dire, j'imagine, du point de vue de l'individu, prendre beaucoup sur soi pour faire en sorte que le déroulement de la compétition avec la team se passe le mieux possible et pas laisser les choses prendre le dessus comme peut-être on pourrait se le... Alors, pas qu'on peut se le permettre en indiv non plus, mais il y a l'impact de se dire, eh ben, si moi je merde ou je perds mon sang-froid ou autre, eh ben, voilà, comme tu l'as dit, il y a trois autres personnes et tout le monde va être affecté.
Ouais, c'est clair, je pense c'est vraiment l'intelligence des athlètes. Pour moi, c'est en team, c'est beaucoup plus important qu'en indiv. En indiv, quelqu'un qui respecte pas sa stratégie pour X raisons, parce que à la base il avait mis en place un truc avec son coach, puis c'est pas respecté dans le WOD et il explose par exemple. Bah, en indiv, au final, c'est son problème. En team, ça va impacter les autres, ça va mettre une mauvaise ambiance. Quand ils vont ressortir, moi, je vais être énervé aussi parce que le gars a rien suivi à la stratégie alors que c'était réglé. Donc, l'intelligence de l'athlète, pour moi, en team, il est ultra important parce que ça va déterminer l'ambiance, ça va déterminer plein de choses. Et donc, voilà, savoir. Je connais beaucoup d'athlètes en indiv, ils ont du mal à se repérer dans le timing d'un WOD, par exemple. Je prends l'exemple d'un WOD qui dure 20 minutes. On prend une base de on veut faire 5 tours. Ou alors, je prends l'exemple aux Games, on passait toujours en dernier hit. Donc, on savait ce qu'on devait faire, en fait, pour être performant. Donc, bah, 10 minutes avant le WOD, quand on voyait les autres passer, on disait, bon, bah, l'objectif, c'est à peu près de faire ça en temps pour être dans les 10 premiers et faire un score plutôt pas mal. Donc, on va partir à ce timing-là. Mais si l'athlète, il ne comprend pas ça, lui, c'est vite problématique. Surtout que tu as 10 minutes, il faut t'échauffer en même temps. Donc, il faut que ça percute assez vite, quoi. Donc l'intelligence est super important. Si l'athlète, il est un peu tête en l'air, il part un peu à 10 000 tout le temps, il réfléchit pas trop, c'est compliqué, quoi.
Et j'imagine aussi l'adaptabilité, la flexibilité sur le moment, parce que tu as un plan A, mais est-ce que tu as aussi un plan B et C, ou est-ce que ça, c'est les athlètes qui gèrent sur le moment?
Souvent, on a un plan A, B, C, D, mais au final, ce qui compte, c'est sur le moment ce qui va se passer. T'as beau prévoir tout ce que tu veux, il y a toujours quelque chose qui va se passer, des no-reps que tu n'avais pas prévus, un juge qui est un peu plus strict, un juge l'inverse qui va laisser plus passer. Donc bah, peut-être qu'on va faire des séries un peu plus longues. Enfin, franchement, c'est sur le moment, c'est pour ça que l'intelligence aussi là, elle est importante parce que faut savoir pousser aussi au bon moment. Peut-être qu'on avait prévu de casser, mais c'est peut-être le moment de pousser parce qu'il y a l'équipe à côté qui tire et c'est le moment d'essayer de grappiller. Enfin, c'est vraiment du ressenti, de la connaissance de la team, de la connaissance des autres athlètes en fonction de comment il respire, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que tu as le temps de lui demander si on pousse ou pas. Enfin, c'est tellement de paramètres en même temps que voilà, c'est beaucoup d'infos en même temps. Donc l'intelligence de l'athlète, pour moi, c'est que je te redis, c'est la base de la team.
Et je t'entends là-dessus, est-ce que tu penses malgré tout que se préparer stratégiquement pour un WOD a une influence justement sur ta capacité à répondre à tous ces inconnus pendant la compétition, dans le sens où, voilà, si tu passes 3 minutes et tu as juste lu le WOD et tu n'as rien discuté, versus tu as passé 20 minutes, 30 minutes à le décortiquer, à bien discuter de toutes les options, est-ce que sur l'instant T, ça fait une différence à ton avis?
Ouais, bah, moi, pour moi, ça fait une grosse diff. Après, nous, on préférait l'avoir 3 minutes avant parce qu'on savait qu'en 3 minutes, on se connaissait assez. Je connaissais assez ma team et eux, ils se connaissaient assez entre eux pour avoir pratiquement la meilleure stratégie en 3 minutes qu'on pouvait faire, en tout cas. Alors que beaucoup de teams, ils ont peut-être besoin de l'avoir la veille et de faire plein de stratégies, dire ah, est-ce qu'on va tenir ça? Est-ce que non? C'est peut-être compliqué. Alors que nous, enfin, la force qu'on avait l'année dernière, en tout cas, c'était vraiment d'arriver en peu de temps, se dire bon bah c'est bon, ça on se connaît en gym, on sait qu'on peut faire ça, on peut tenir unbroken, tout le monde est capable de faire ça unbroken. Toi non, bon on va casser en deux, toi, enfin, et ainsi de suite, ça allait très vite. On se connaissait tellement sur tous les mouvements que c'était assez facile de faire la stratégie en peu de temps. Et c'était notre force, hein. De toute façon, on l'a vu sur les WOD où il y avait beaucoup de synchro à 4. On faisait vraiment des différences sur juste, à mon avis, la stratégie en termes de capacité de travail. Je pense qu'on était peut-être même en dessous de certaines équipes, mais par contre, on bougeait, on savait qu'on n'allait jamais exploser, on était toujours dans le bon rythme, et ça fait une grosse diff en team, hein.
Comme tu parlais, et on l'a vu il y a quelques années, non, il y avait un peu des super teams qui s'étaient faites avec des gars et des nanas qui étaient vraiment bons en indiv et qui se sont dit, bah, on se met tous ensemble et on va aller tuer tout le monde en team, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça.
Ah, c'est pas aussi simple que ça. Alors forcément, c'est quand tu as les meilleurs dans ta team, c'est toujours bien, mais c'est comme dans tous les sports, je pense, hein. C'est pas forcément la meilleure team sur le papier qui va remporter le truc. Il y a plein de paramètres autour. C'est ça le jeu de la team, ça qui est bien aussi, hein. Ça qui est cool.
Tu as parlé de l'importance de s'entraîner ensemble en team. Est-ce que c'est tout aussi important à ton avis de, si on veut performer en compétition, de également faire beaucoup de compétitions ensemble pour avoir cette pression, ou est-ce que tu penses que ça peut être répliqué de manière assez juste à l'entraînement pour le jour J, avec la pression de la compète et toutes les inconnues autour, quand même performer en team?
Franchement, moi, je suis pas. Alors déjà de base, je suis toujours en train de dire à mes compétiteurs de pas faire trop de compétitions parce qu'ils ont tendance à vouloir en faire beaucoup. Donc moi, je suis plutôt partisan de pas trop en faire et pas forcément d'en faire en team si tu fais le processus quand même, il est long des games. Donc il y a les Open en indiv, après tu as les quarts en team, tu as les demi en team. Donc ça te fait quand même du travail à faire en team. pense pas que tu aies vraiment besoin d'aller faire d'autres compétitions. En plus, il n'y en a pas tant que ça non plus, des compètes en team de 4. Si tu vises les games, c'est-à-dire que tu vas faire une compète où je suis pas sûr qu'il y ait un niveau, qu'il y ait un niveau qui fasse que tu sois challengé. Franchement, non, je suis pas persuadé de ça. Je pense qu'il faut mieux travailler fort à l'entraînement.
Et est-ce que tu aurais le même discours pour un individu qui ferait de la compète en individuel, qui s'en sort très très bien en entraînement, mais qui du coup a beaucoup de peine à exploiter son ou à exprimer son potentiel en compétition? Comment est-ce que tu travaillerais avec un athlète comme ça?
Ouais, c'est sûr. Si le problème est plus mental, comme tu dis, bah pourquoi pas sur une saison essayer de faire un peu plus de compète pour qu'il s'habitue un peu à cette ambiance-là. Mais après, moi, de manière générale, la saison, pour moi, si tu fais aller 4 compètes dans ta saison, c'est déjà. Enfin, toi, entre les Open, les quarts, les demi, les Games, tu vas aux Games. Si tu vas avoir une période un peu off, hors saison, te préparer. Tu peux pas caler une compète, enfin là, toi, une compète, mettons en septembre, octobre, pour moi, un athlète qui vient de finir les Games, il veut préparer la saison d'après, enfin, je vois pas comment c'est possible. Ta saison, elle va commencer vraiment peut-être qu'en janvier ou février, en fait, aux Open, quoi.
Ouais.
C'est compliqué de mettre des compètes au milieu, ou alors, faut être capable de se dire, je vais faire cette compète-là, mais en mode un peu chill, c'est vraiment juste pour travailler autre chose que la partie, comme tu dis, peut-être la partie mentale, mais. Franchement, ça me paraît compliqué d'aller dans une compète et de dire j'y vais pas pour performer, quoi. C'est un peu dur à faire et puis je vois pas trop l'intérêt. Donc non, moi je pense si vraiment, ou alors tu sacrifies une saison, comme tu dis, si c'est un problème mental, tu dis bon, bah, cette saison-là, vas-y, on va travailler sur l'aspect mental des compètes. Quitte à. Il y aura forcément un moment où ça va être un peu plus dur si tu commences à faire 5, 6, 7 compètes dans l'année. Ça va commencer à être dur, la saison, elle va être longue. Mais après, tu sais que ça va peut-être payer pour la saison d'après, quoi. C'est un projet à plus long terme.
Le mot que tu as utilisé, sacrifier, il est quand même assez fort, dans le sens où, de ton point de vue, alors parlons de quelqu'un qui peut-être est en train d'essayer de se qualifier pour les demi-finales en indiv, donc qui a un bon niveau, mais qui faut juste passer ce cran du dessus. Donc, de ton point de vue, faire trop de compétitions dans l'année, ça va avoir un impact négatif sur le développement de l'athlète.
Moi, pour moi, ouais. Surtout qu'en fait, les compètes, elles sont vers les open ou les quarts. Donc, c'est compliqué de les faire parce que bah, c'est quand même ta priorité. C'est déjà, si tu veux aller en demi, il faut déjà aller en quart. Même si, normalement, si tu es potentiellement qualifié pour aller en demi, les quarts, c'est une bonne formalité. Mais bon, cette période-là, elle est super importante pour te préparer pour après. Donc, une compète, pour moi, ça veut dire c'est. La semaine avant, tu fais pas grand-chose en gros. Tu vas pas t'entraîner fort parce que tu as la compète à préparer. La semaine après, c'est un peu pareil. Ça va être compliqué de vraiment s'entraîner comme il faut parce que bah, tu as la compète qui vient de se finir, tu as poussé, tu as mis de l'intensité, il faut récupérer. Donc en gros, tu as 2 semaines compliquées, quoi. Voire même plus, si vraiment tu as poussé, ça peut durer un peu plus longtemps ou tu te sens moins bien. Donc ça fait beaucoup de semaines perdues. Si tu en fais 3-4 dans l'année, bah, en fait, tu t'entraînes plus beaucoup, quoi. Donc c'est un peu mon point de vue moi là-dessus. Mais c'est la bataille avec mes athlètes hein parce que eux, ils veulent faire des compètes.
Ouais, donc tu dirais que ça c'est un autre cheval de bataille, c'est parce qu'au final, comme tu l'as dit, bah, ça te bouffe, tu fais une compète dans un mois, tu as la moitié du mois de l'entraînement qui est
Exactement.
loin.
Exactement. Et alors enfin avec les athlètes quand on discute de ça, ils me disent non, mais je fais cette compète-là mais je le fais pas vraiment, c'est pas l'objectif de l'année, toi je le fais juste pas. Ben ouais, mais en fait, une fois que t'es là-bas, t'es dans l'Ouest, tu vas pas. Enfin, j'ai été athlète. Dans l'Ouest, tu vas pas dire j'y vais à 80%, tu vois, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Donc au final, tu sors de la compète, ou alors tu fais une compète. Des fois, il y en a qui me disent ah, mais je fais une compète avec mon pote, c'est juste en team pour rigoler, c'est fun, mais c'est pire parce que ton pote, il a pas le même niveau que toi. Donc toutes les reps qui vont être dures, c'est toi qui vas les faire en plus, et au final, c'est encore plus intense que. Donc pour moi, ouais, c'est l'objectif en fait, c'est le plus important. Moi, là, je suis honnête avec l'athlète. Hein, ton objectif, c'est d'aller en demi. Bon, ben, on va se préparer pour aller en demi. La compète du coin, machin, on s'en fout, tu vois. Si tu veux faire ça, c'est qu'en fait, ton objectif, il n'est pas vraiment clair dans ta tête. T'es pas focus, quoi. Donc voilà, faut que ça soit clair. Après, si c'est un athlète qui il me dit, bah, mon objectif, c'est les French en inter, par exemple. Et qui veut faire des compètes un peu avant, bah pourquoi pas, parce que c'est pas le même niveau d'intensité, d'exigence. Il y a moins de choses à mettre en place à côté, en dehors de l'entraînement. Enfin voilà, c'est accessible un peu plus facilement. Tu peux te permettre de faire des petits trucs à droite à gauche. Par contre, quand tu vas aller en demi ou aux Games, c'est tellement exigeant que si tu commences à t'éparpiller dans l'année, Alors, à moins que tu t'appelles Fraser et que tu as des capacités de fou, si tu peux te permettre de faire deux, trois petits écarts et tu veux tirer aux games. Mais Fraser, s'il veut gagner les games, il faisait pas d'écart, tu vois. S'il voulait participer aux games, il pouvait se permettre de faire deux, trois compètes dans l'année qui servaient à rien. Mais il le faisait pas dans tous les cas, lui. Hein.
Il faisait un triathlon en octobre.
Voilà, exactement. Exactement. Mais non, mais c'est vrai, c'est. Je pense que la saison off, un peu, elle était énorme. Pour les gros athlètes, la saison off, elle est énorme, en fait. Parce qu'ils ont besoin de ça. C'est tellement intense après la période où tu pousses que bah, il faut une période où tu récupères et que tu fasses de la basse intensité et tu, voilà, que ton corps récupère tranquillement pour tenir les saisons. Parce que c'est pareil, entre performer une saison et performer pendant 10 ans, c'est pas la même, quoi. C'est pas le même objectif. Donc, en fait, c'est un projet avec l'athlète. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en place. C'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton projet sur 1 an et 5 ans et 10 ans? Et à partir de là, ben, on bosse sur un truc. Et si t'es pas d'accord avec ce que je te propose, ben, souvent, on travaille plus ensemble. Hein. Il faut que ça soit en accord. Sinon, c'est peine perdue d'avance.
J'ai eu un athlète avec qui j'ai communiqué récemment qui m'a dit depuis décembre, il a fait une dizaine de watts maximum
Ouais.
et son PB Fran, il était à 2,20 avant et pour atteindre un 2,20, il avait fait un cycle spécifique Fran, etc. Et là, il m'a dit, il a fait son haltéro, son renfo gym, son cardio basse intensité, un petit peu d'intensité ici et là, mais vraiment très, très peu. Et il a retesté son Fran et il a fait 2,25. Donc, il est à 5 secondes de son PB avec au final une fraction de l'intensité qu'il mettait avant. Comment est-ce que tu penses qu'il y a de la peur aussi? L'idée de se dire, mais en fait, le sport, sur le papier, encore une fois, hein, mais c'est peut-être pas nécessairement la réalité du processus de l'entraînement. La compétition, en tout cas, elle est à haute intensité. Ça, on est d'accord. Mais tout le monde considère le CrossFit comme étant le sport de haute intensité. Et donc, forcément, dans la tête des gens et des athlètes, peut-être. Eh ben, on doit faire de l'intensité fréquemment pour pouvoir performer. Comment est-ce que tu raisonnes avec un athlète qui pense comme ça? Et est-ce que tu penses que ça contribue au fait que ben justement les athlètes ne veulent peut-être pas lâcher en fait cette intensité, se dire ouais, mais si j'en fais pas pendant 2 semaines, je vais tout perdre en fait.
Ouais, c'est ça, bah, c'est comme tu dis, c'est de la peur. Hein. C'est alors peut-être de la méconnaissance aussi. C'est pour ça que le coach, il est important d'essayer d'expliquer ça. Et après, il y a le coach, il doit aussi arriver à le convaincre parce que c'est pas même t'as beau lui dire bah on va faire ça parce que c'est bien pour toi. Lui, il va te dire, mais non, mais en fait, si je fais pas, comme tu dis, je fais pas d'intensité pendant 3 mois, je vais arriver sur ma compétition, je vais être nul. Mais non, en fait, non, c'est le principe de même de la compétition. T'as une phase de préparation et t'as la phase de l'intensité, elle va être ce week-end-là. Mais avant, c'est juste de la prépa. Faut que tu sois prêt à mettre de l'intensité à ce moment-là. Et faut que tu sois le plus en forme possible pour arriver ce week-end-là en forme. Mais c'est dur pour eux, en fait, pour arriver en forme, bah, faut faire plein de choses avant à la même intensité que le jour J pour être capable de le refaire. Mais je pense que c'est dans. Alors, en fait, je sais pas trop si c'est dans tous les sports. Je pense que c'est bien propre au CrossFit quand même. Parce que dans tous les sports, souvent, les entraînements sont plutôt assez cool. Moi, je sais que je viens des sports un peu j'ai fait beaucoup de foot. La semaine, chez les pros, ils font, enfin, je vais pas dire qu'ils font rien, mais pas loin, quoi, tu vois. C'est un peu des, mais ce qui est logique, parce qu'en fait, chaque semaine, ils refont de l'intensité, chaque dimanche où tu peux pas, mettre de l'intensité, tous les jours à l'entraînement si le dimanche faut en remettre, sinon tu vas te cramer. Donc, voilà, mais en CrossFit, c'est différent. C'est un peu, c'est l'image du CrossFit aussi, hein, comme tu dis. C'est Froning en 2012, 2014, 10 entraînements par jour. Donc oui, forcément, ben on se bagarre avec ça maintenant, mais je pense que les mentalités changent quand même. Hein. C'est de plus en plus les gens comprennent ça, et je pense que ça va dans le bon sens en tout cas. J'ai l'impression.
Quelqu'un qui s'entraîne, qui a un bon niveau déjà, disons, haut des quarts de finale et qui est proche des demi, et qui s'entraîne trop en haute intensité ou trop souvent, ou qui ne se donne pas justement cette opportunité de construire pour ensuite pouvoir exprimer, combien de potentiel il est sur la table en termes de performance? Alors, c'est difficile de quantifier sur tous les métriques, mais les différences que toi, tu as pu voir en prenant un athlète et en peut-être en coupant un peu sa charge d'entraînement, ou même juste en régulant mieux son intensité, ou en programmant mieux sa distribution d'intensité sur une pré-saison et une saison, qu'est-ce que tu peux voir comme changement?
Je pense, en fait, moi, pour moi, déjà, surtout, la grosse diff, ça va être la blessure. Parce que la plupart des athlètes en CrossFit qui ont du mal à passer un cap, c'est qu'à un moment donné, ils sont blessés. Généralement à cause de cette intensité-là qu'ils mettaient trop souvent et que bah c'est dur à tenir. Et si t'as Alors, si t'es un... chacun arrive à supporter cette intensité-là différemment, mais généralement, pour la majorité des gens, si tu vas trop loin, tu te blesses. Et si tu te blesses, tu prends du retard. Après, tu essayes de rattraper ce retard et puis c'est parti, quoi. Tu es dans un mood qui n'est pas bon du tout. Donc, en fait, pour moi, c'est surtout ça. J'ai du mal à quantifier, comme tu dis, mais le point, c'est surtout la blessure, en fait. Si tu passes le cap de te blesser une fois, puis deux fois, et puis après, c'est parti, tu commences à être dans un cercle un peu vicieux où tu essayes de rattraper ce que tu as perdu pour être en forme à cette compète-là, parce que tu veux à tout prix la faire, et puis machin. Et tu te perds, et en fait, un an passe, 2 ans passent, et puis après, bah, c'est dur à de revenir. Après, ça pousse derrière, il y a les petits jeunes qui arrivent, tu as raté un peu le coche de là où tu étais le plus en forme. C'est voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de travailler dès le début. Dès que les gens arrivent, moi, qu'ils ont un an de CrossFit, je vois qu'il y a un potentiel. On essaye de discuter, de mettre en place un projet un peu sur 2, 3 ans, parce que c'est toujours pareil, les athlètes, ils veulent performer tout de suite. Donc, c'est ça qui est dur à mettre en place, c'est de dire, bah, OK, essaye cette année de viser, je sais pas moi, les Marseille Trodone. L'année prochaine, on vise une compète un peu, je sais pas moi, Wadapalooza ou une grosse compète un peu comme ça extérieure, hors de la France. Et dans 3 ans, pourquoi pas aller en demi ou au game, sûr. Quelqu'un qui a un gros niveau, hein, je parle. Hein. Mais voilà, en tout cas, un processus comme ça me paraît sain. Quelqu'un qui arrive, qui me dit, je vais aller au games l'année prochaine. Ouais, ok. Ok, mais ça va être dur quand même là. Il y a quand même un processus à faire. Ouais, non, mais moi, je suis prêt à m'entraîner tous les jours à fond, machin. Ouais, mais c'est pas ça le problème, en fait. Il faut du temps, c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges et convaincre les athlètes, essayer de les pousser à ce que toi tu as envie de faire avec eux pour que tu penses être le mieux, quoi.
Là, disons que là, on est en août. Donc on vient, alors la saison compétitive entre guillemets vient de se terminer pour ceux qui sont allés aux Games. Il y a encore des compétitions locales qui se déroulent. Il y a, si je me trompe pas, il y a les Marseilles tout bientôt. Quelqu'un qui veut par exemple aller aux demi-finales l'année prochaine. Pour toi, sa pré-saison ou son intersaison entre maintenant et les Open, qui seraient techniquement ou théoriquement la prochaine échéance compétitive importante pour aller aux demi-finales. Comment se structure cette deuxième partie de l'année? Il y a combien de semaines, combien de mois où il va peut-être faire un petit peu moins de CrossFit et un petit peu plus de développement de toutes les qualités physiques, physiologiques, athlétiques qui sont nécessaires pour performer en CrossFit? Comment les 6 prochains mois s'organisent de ton point de vue?
Tu parles de quelqu'un qui sort des games là ou
Non, quelqu'un qui, comme je disais
qui
avant, quart de finale, qui a fait l'écart, qui était pas mal en quart, mais qui a pas pu passer au niveau supérieur au demi et qui souhaite le faire l'année prochaine.
Bah, dans l'idée, moi je pense que la saison, comme tu dis, elle vient, on va dire quelqu'un qui a raté les demi de pas loin, ça veut dire qu'il a sûrement fait les French, qui était un objectif aussi, qui a fait deux, trois petites compètes peut-être pendant l'été là, les Alsaces ou voilà, des compètes un peu comme ça. Pour se faire plaisir ou en team avec des potes. Et après, je pense que juillet, août, septembre, octobre et novembre, ça fait déjà 5 mois. Je pense qu'il peut le consacrer à déjà récupérer pendant la phase un peu d'été. Et après, bah, tout ce que tu as dit, basse intensité, construction un peu corporelle pour remettre un peu de base dans tout ça, je pense que ça peut aller jusqu'à presque la fin de l'année. Hein. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a déjà, souvent, la peur des athlètes, c'est comme tu dis, c'est de dire. Je vais arriver en janvier, si je fais ça, je vais être nul. Alors oui, sûrement en janvier, tu ne seras pas dans la meilleure forme de ta vie. Mais en fait, les Open, ils commencent que en février, déjà mars. Normalement, les Open, ça devrait bien se passer pour arriver en quart, même si tu n'es pas à 100%. Donc, ce n'est pas très grave si tu n'es pas encore à 100% à ce moment-là. Par contre, en fin avril, début mai, quand les quarts vont arriver, là, tu seras à fond. Parce qu'en fait, tu auras commencé en janvier à remettre un peu de CrossFit dedans. De l'intensité tout doucement et 4 mois, ça suffit largement pour retrouver un niveau quand tu as déjà un bon niveau de base. Hein. C'est pas comme qu'un débutant qui, oui, a besoin de faire un peu d'intensité tout le temps parce que c'est le début. Une fois que tu as des bonnes bases, ça revient très vite. Le corps a une bonne mémoire. Hein, donc ouais, je pense au moins jusqu'à fin décembre, je dirais.
5 mois, c'est long quand même.
C'est long et c'est ça qui est dur à faire. C'est ça qui est dur parce qu'il y a ce manque aussi d'intensité. C'est un peu. Je pense que c'est même plus que physique, c'est un peu mental. C'est l'envie de se pousser un peu, les endorphines qui arrivent après, enfin voilà, tout ça qui manque en fait, je pense.
Du coup,
Mais à mon
comment est-ce
avis,
que
ça serait bénéfique.
t'as des stratégies pour combler entre guillemets ce manque ou l'adresser
Bon.
ou est-ce que tu leur dis non, tu te démerdes, tu gères
Non, ouais, il y a
jusqu'à
toujours des
novembre?
stratégies, il y a toujours des. Enfin, toi, un week-end, tu t'entraînes un week-end ensemble, tu fais un petit WOD team, ah, tu te pousses un peu en WOD team, il y a un peu moins de volume, tu sais que ça ne va pas te tuer pour la semaine d'après, mais tu vas quand même pousser dans des intensités un peu plus hautes, histoire de, tu te fais plaisir avec des potes sur un entraînement, à te pousser sur un truc, un challenge. Il y a moyen, tu vois, de donner des petites intensités, dans, mais il ne faut pas que ça soit impactant, en fait. Pourquoi que tout le travail de base soit impacté.
On avait quelques questions qui nous étaient venues d'Instagram, du coup je voulais en ressortir quelques-unes. Alors je les ai lues avant, mais je ne les ai pas toutes de tête, donc je vais les relire comme ça. Nico demande comment gérer sa prog hebdomadaire pour travailler ses différentes qualités sans créer trop de fatigue. Ben voilà, on est en plein dedans.
Ouais, bah c'est ça, c'est arriver à accepter que la programmation pendant un temps, peut-être tu fasses un peu moins d'intensité vraiment. Haute avec des mouvements qui sont genre je sais pas des thruster burpees des choses comme ça qui tu sais que ça va t'impacter pendant 2 3 jours derrière en fait et du coup bah, tout le travail de fond derrière va être impacté. Voilà, juste tu peux te faire plaisir de temps en temps sur un WOD mais choisir les bons mouvements pour que tu sois pas fracassé pendant 3 jours derrière quoi. Donc voilà, essayer de trouver les bons mouvements pour te faire plaisir quand même et garder ce mental qui est important, parce que si tu vas à l'entraînement la tête basse et tu dis putain, je vais encore faire des tractions strictes et du bench aujourd'hui, et puis 1 heure de vélo tranquille, c'est sûr que si tu y vas avec un peu pas l'envie, ça va être compliqué de tenir les 5 mois. Donc faut trouver le juste milieu.
Peut-être, comme tu viens de le dire ici, une des pistes de réflexion pour les athlètes qui ont de la peine à raisonner en fait avec cette idée de faire un peu moins d'intensité tout le temps, c'est vraiment réaliser en fait, comme tu l'as dit là, le coût de fatigue que génère une vraie séance de très haute intensité et, comme tu l'as dit, ben, l'impact sur le reste de la journée, potentiellement les jours suivants et du coup le volume que tu aurais pu accumuler de travail de qualité que tu aurais pu accumuler dans ce temps-là, eh ben, il va être soit de moins bonne qualité, soit tu vas même pas pouvoir le faire.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour moi, le meilleur moyen là-dessus, ce que moi j'ai trouvé de plus facile à faire pour justement arriver à cadrer ça, c'est qu'en fait les athlètes fassent le cours du jour et que comme ça, le coach, c'est super facile de cadrer ça en fait. Tu lui dis, en fait, tu vas le coacher, tu vas dire, bah non, aujourd'hui, prends pas la KB de 32, prends plutôt la KB de 20, tu vois. Rien que ça, déjà, ça va changer tout son entraînement. Maintenant, respecte ce timing-là dans ton WOD. À 3 minutes, tu dois avoir fait un tour. Pas à 2:30, pas à 2:15. C'est à 3 minutes. Et si tu es en avance, bah, le deuxième, tu gères encore un peu plus. Et en fait, tu le coaches facilement dans la séance avec les autres. Donc en plus, ça passe bien parce qu'il est avec la classe du WOD. Donc en fait, il y a toujours un Gugus avec qui il va bien s'entendre, discuter, voire même il y a une bonne ambiance dans le groupe. Donc là, c'est cool. La séance se passe bien. Et en fait, tu vas pas à l'entraînement un peu avec pas d'envie parce que tu vas être tout seul à faire ton truc, tu vas aller à 2 à l'heure, enfin tu as l'impression d'aller à 2 à l'heure. Voilà, tu es dans le mood de la séance, il y a une bonne ambiance, ça raconte un peu des conneries à droite à gauche. Pour moi, c'est la meilleure façon, c'est vraiment d'arriver à travailler en groupe et si possible de faire les séances de classe, c'est encore mieux, tu vois. Et tu gardes un bloc à côté que tu fais parce que voilà, tu as forcément, si tu es athlète, tu as besoin de faire peut-être un peu plus que la classe, mais en 1 heure 30, 1 heure 45, tu as fait tes blocs avec tes 1 heure de classe au milieu et tu as pris du fun, quoi.
On a déjà parlé un petit peu, mais Bastien demande comment sont organisés les cycles gestion de volume intensité en fonction de l'année. Ça dépend, j'imagine, le niveau du compétiteur.
Ouais, exactement. Alors après, il y a quand même des bases un peu communes. Après, on essaye d'individualiser un peu sur les formats. Ça veut dire quelqu'un qui a une compète, quelqu'un qui va faire les Marseilles, forcément. On va peut-être lui donner des consignes un peu différentes que quelqu'un qui prévoit, comme tu as vu tout à l'heure, qui veut aller en demi et qui a fini sa saison un peu plus tard. Enfin, voilà, c'est un peu individualisé là-dessus, mais notre base de prog, elle est quand même commune. Ça veut dire que même si tu fais les Marseilles, à moins que tu m'as dit en début d'année, c'est mon objectif de l'année, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais si c'était pas forcément ton objectif, mais tu t'es quand même inscrit parce que tu voulais faire cette compète-là. Bah, ça veut dire que depuis juillet, tu fais quand même beaucoup, beaucoup de renfo, de muscu et tout ça. Et puis les Marseilles, ça n'empêche pas que ça soit fun, même si t'es pas à ton pic de niveau, toi, c'est pas très grave. En fait, c'est ton objectif de l'année et puis l'entraînement, faut que ça soit en corrélation. Tu peux pas dire mon objectif, c'est les French et vouloir être à 100% au Marseille. Pour moi, c'est impossible, tu vois.
Ouais, et comme tu l'as dit, il faut être super clair sur ce vers quoi tu tends, et après, il faut faire en sorte que tes actions s'alignent avec ça, parce que
Exactement.
tu peux pas dire un truc et après faire le contraire.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce que tu conseilles aux athlètes qui, peut-être justement, ne sont pas alignés entre leurs propos et ensuite leurs actions? Est-ce que tu leur dis d'écrire leurs objectifs et ensuite de travailler à reculons en termes de développement? Bah, j'imagine que ça, c'est ton boulot plus que le leur de coach, de périodisation par rapport à cet objectif. Mais ouais, comment est-ce que les athlètes peuvent justement mieux gérer leur quotidien en vue d'un objectif précis?
Bah, je pense déjà la base, c'est qu'ils le comprennent. Parce que moi, quand je parle avec beaucoup d'athlètes au début, quand c'est vraiment le début de la collaboration, souvent, en fait, pour eux, un objectif, c'est pas forcément. Ils n'ont pas forcément un objectif dans l'année. Ils me disent, bah, je veux faire telle compète, telle compète, telle compète. Je dis, bah ouais, mais là, tes compètes, il y en a une en mars, une en avril et l'autre, elle est en septembre. Enfin, toi, c'est compliqué d'être. Tu peux pas être performant tout le temps, en fait. Alors, tu peux être en bonne forme, mais tu peux pas avoir trois points comme ça aussi éloignés et être ultra performant. Faut que tu en choisisses un pour toi qui est la priorité. Et les deux autres, c'est, on va dire, c'est plus du fun et tu feras avec les moyens du bord à ce moment-là, tu vois, en fonction de ce qu'on fait. Et souvent, en fait, une fois qu'ils ont compris ça, déjà, c'est plus simple après à travailler avec eux. Et puis, pour ceux qui ont vraiment plus de mal, bah ouais, j'essaie de leur faire écrire. Leur objectif de sur papier qu'ils m'envoient et après comme ça en fait c'est simple d'être en corrélation quand il y a un problème ou quoi. Ils me disent, ouais, je t'ai pas en format cette compète. Je dis bah ouais, mais c'est pas grave, c'était pas ton objectif en fait cette année. Pour l'instant on travaille là-dessus. Souvent je leur rappelle, bah toi sur ton max en bench, ça a pris tant de kilos. Alors c'est sûr que pour l'instant sur un watt de 20 minutes, t'es un peu moins bien, mais ça va venir, tu vois. C'est pas grave. C'est un travail un peu mental, c'est beaucoup d'accompagnement.
Et j'imagine de la perspective et de la patience aussi, en sachant que juste parce que bah, l'objectif que je veux réaliser dans 6 mois, dans 8 mois, je dois pas pouvoir le manifester maintenant. Justement, c'est dans 6 mois, dans 8 mois. Et si le processus est clair pour y arriver et qu'il y a une véritable progression qui est mise en place, comme avec une prog, comme tu le fais, et ben voilà, là aujourd'hui, non, tu vas pas pouvoir réaliser ton objectif, mais parce que c'est pas le but en fait, c'est dans 6 mois,
Ouais,
c'est dans huit
c'est ça,
mois.
exactement, exactement. Mais c'est ouais, c'est un travail, c'est vraiment un travail de longue haleine, hein, c'est pas évident. Après, des fois, j'ai eu le truc inverse, ça veut dire que la personne acceptait assez facilement ce processus, mais par contre, au moment où fallait vraiment y aller, bah, en fait, le petit quotidien un peu tranquille, toi, ça lui allait bien finalement. Et il avait plus de mal à passer à la vitesse supérieure quand il fallait. Donc, après, de toute façon, chaque athlète est différent.
Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment essayer de les aider. De toute façon, c'est le rôle c'est mon rôle et le rôle des coachs. Hein, c'est d'essayer de faire passer des caps en fonction de chacun. On a tous des points faibles à droite, à gauche. Il y en a, c'est l'entraînement, il y en a, c'est la nutrition, il y en a, c'est le sommeil, il y en a, c'est un peu tout. Il faut essayer de les aider un peu de partout, même si on n'est pas spécialiste dans tout, et de les orienter. Voilà, si c'est la nutrition, les pousser vers quelqu'un qui va les aider. Si c'est autre chose, enfin voilà, c'est un tout, hein, je pense vraiment. La performance, c'est pas juste la programmation. Hein. Pour moi, la
Ouais.
programmation, c'est vraiment. Souvent, je dis, c'est allez, peut-être 20%, 30% dans l'athlète. Le reste, enfin, moi, je suis assez clair avec mes athlètes. Je leur dis, tu ferais peut-être une autre progra, ça serait peut-être pareil, tu vois. C'est pas la progra en fait qui va jouer, c'est tout l'aspect mental qu'il y a autour et comment tu la gères, tu vois, qui est important.
Ouais, l'exécution, parce que tu peux, t'as ce qu'il y a sur le papier, mais après il y a la forme du
Bien
jour,
sûr.
il y a ce que tu as fait le jour avant.
Exactement.
T'es pas exact, enfin. Moi, je sais que j'ai jamais, avec un client ou un athlète, j'ai jamais effectué une séance exactement comme elle était écrite. C'est,
Exactement.
ça se passe jamais, ça se passe jamais exactement comme tu l'avais planifié.
Exactement. Mais j'ai beaucoup des fois, ils me disent, ouais, il y avait sur le ce, je sais pas, il y avait un 5x5 à faire. Et putain, la première série, c'était grave dur. J'ai pas pu la faire. Du coup, j'ai quand même, en gros, j'ai échoué à chaque fois. Quelqu'un m'aidait. Mais non, mais en fait, enfin, tu sais, faut que tu arrives à comprendre que si c'est le jour-là et ça, c'était pas bien pour X raisons, il y a tellement de paramètres que, enfin, moi, je peux pas le savoir. Tu vois, il y a une partie où c'est toi qui, peut-être, t'as moins bien dormi, peut-être, t'as des choses dans ta vie qui font que tu es moins en forme en ce moment, autre que la progra. Tu vois, c'est pas forcément la progra qui est remise en jeu. Bah, c'est pas grave. baisse les charges ou fait moins de reps. Enfin, faut qu'aussi l'athlète il arrive à trouver cette intelligence-là, à se dire bah, ok, faut peut-être que je m'écoute aussi de temps en temps et changer un peu le truc quand il faut, quoi. Mais ça, c'est pas simple, hein. Ça demande beaucoup d'entraînement et de temps aussi, et de passion aussi, je pense. Si l'entraînement, c'est pas un truc qui nous passionne, bah, on lit bêtement ce qui est écrit, on fait, et puis des fois, c'est pas forcément le mieux, quoi.
Et aussi ça demande à se connaître et à savoir s'écouter. Et à une citation qui est traduite de l'anglais, donc elle n'est pas exacte, mais du patineur de vitesse Niels Van Der Poel, qui a gagné le 5 000 et 10 000, double record du monde et double champion olympique, qui disait: il faut savoir entendre son corps quand il te murmure pour pas devoir l'entendre crier. Et je trouvais que c'était assez bien mis.
Ouais, c'est clair, bah, ça nous parle bien.
Le petit Pacha demande: selon toi, la génétique a-t-elle un rôle pour le haut niveau au CrossFit?
Bah oui, bien sûr. Bah oui, clairement, on peut pas tous être Fraser, on peut pas tous être Froning. Ouais, bien sûr, la génétique a un rôle de base. Après, avec des génétiques, il y en a qui font rien avec, hein, donc. Voilà, c'est oui, ça forcément ça joue, mais ça joue peut-être, je sais pas, en pourcentage, peut-être 30%, allez, puis après il y a tout le travail derrière. Alors un Fraser qui n'aurait pas beaucoup bossé, il serait peut-être allé aux Games quand même, mais il aurait peut-être fait entre 20 et 40, quoi.
Est-ce
Voilà.
que ça c'est ma question à moi. Est-ce qu'il y a des passés sportifs qui sont favorables au développement dans le CrossFit? Je pense à un Guillaume Briand qui a fait des années de natation à haut niveau, à un Fraser qui était haltérophile avant. Enfin, je veux dire, tu retrouves quand même pas mal d'athlètes qui étaient dans un sport au préalable. Est-ce qu'il y a peut-être une discipline ou un type de sport qui se prête mieux à, une fois que tu as pu performer dans ce sport à haut niveau, exprimer ton plein potentiel dans le CrossFit?
Ouais, bah, je pense dans les années précédentes, il y avait des sports quand même qui étaient beaucoup représentés, hein, notamment le rugby, le judo. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de ces sports-là qui performaient au CrossFit. Après, je pense que plus ça va aller, plus ça sera des CrossFitters qui ont commencé à 6 ans, 7 ans, et en fait, qui ont fait que du CrossFit pratiquement. Donc, alors, ils faisaient du CrossFit peut-être petit avec un autre sport, avec peut-être de la gym. Puis après, ils ont touché un peu. Généralement, de toute façon, ceux qui font du CrossFit, c'est un peu des touche-à-tout, hein. Ils aiment bien un peu plein de sports. Donc, ils ne font pas forcément qu'une discipline. Je pense que c'est même ça le secret, à mon avis. C'est souvent des athlètes qui touchent un peu à tout. C'est rarement des athlètes qui ont fait un sport dans leur vie qui performent dans le CrossFit après. En tout cas, en ce moment. Après, je pense dans deux. Déjà là, en ce moment, on voit, je pense que les Mallory O'Brien, et Mal au sol, je pense qu'elles ont fait pratiquement que du CrossFit, à mon avis, depuis toute petite. Et plus ça va aller, plus on va voir que ça. Hein. Ça va être que des mini CrossFitters qui sont devenus grands, quoi.
Dans cette veine-là, Thibaut demande: faut-il pratiquer un autre sport que le CrossFit une fois par semaine, rugby, natation ou autre? À ton avis, est-ce que c'est intéressant ou pertinent pour quelqu'un qui souhaite être compétitif?
Moi, je pense oui, c'est bien de faire d'autres sports un peu à côté. Après, rugby, je suis pas sûr que ce soit le meilleur, parce que ça impacte quand même pas mal. Donc, il y a des risques de blessures, il y a des risques de, enfin, beaucoup de risques. Donc, mais oui, pratiquer d'autres sports, c'est forcément, voilà, du triathlon en période un peu off. Il y a plein de sports que tu peux faire un peu en dehors. Je pense aller de temps en temps dans des salles de gym, ça peut être très bénéfique aussi. De l'haltéro toute la saison, pourquoi pas. Enfin, oui, c'est sûr. Il y a tellement de sports qui peuvent t'apporter pour après le CrossFit.
Il y a Nathan qui nous pose une question directement sur le live. Alors, attends, elle ne s'affiche pas en complet. Je vais te la lire. Nathan demande: comment définis-tu le volume de gym dans ta programmation?
Bon, en fait, c'est assez simple. On fait un test en début de programme. Donc sur des, en fait, mes tests, ils sont toujours sur pratiquement 3 minutes sur tous les mouvements, sauf le muscle up ring qui est sur 4 minutes, où ils font un max de reps dessus. Et après, en fait, c'est sous forme de pourcentage. Du coup, j'arrive à régler le volume de chacun en fonction de ça, quoi.
Ok, donc comme ça te donne une base de ce qu'ils sont capables de faire et t'organises à
Exactement.
partir de ça.
Ouais, exactement. Après, on essaye de refaire un peu les tests tous les 6 mois, on va dire, voire 9 mois. Allez, entre 6 et 9 mois pour surtout ceux qui. Alors, des fois, il y en a, ils le font un peu plus tôt parce que ceux qui débutent un peu dans le CrossFit, des fois, ils ont des progressions fulgurantes en peu de temps. Donc, c'est bien de les refaire pour remettre à jour parce que sinon, ça ne veut plus rien dire, les pourcentages. Mais ouais, voilà, c'est assez simple à mettre en place. comme ça tout le monde a un volume décent pour lui et voilà, et puis ça peut amener une progression assez simple dans l'année, quoi.
Ouais, comme tu le dis, plus ton niveau est... c'est contre-intuitif presque, hein, mais plus ton niveau est haut et moins souvent tu vas tester parce que les adaptations prennent plus de temps à prendre effet en fait.
Ouais, c'est clair. Et puis je pense au bout d'un moment, quand tu as un niveau de test, ça sert même plus à rien de le faire, le test en fait. Enfin, toi par exemple, Julie, en test de chest to bar, je pense qu'elle ne le fera plus jamais de sa vie ce test, parce que ça veut dire qu'elle fasse 95 ou 100, on s'en fout, tu vois. C'est pas elle ce qui va importer, c'est la capacité à le mettre avec des thrusters, ou voilà, c'est plus ça qui va jouer. Pour l'instant, elle n'a plus besoin vraiment de le bosser en tout seul pour progresser sur ce mouvement. Voilà, à un moment donné, c'est arrivé à un certain score que moi j'ai dans ma tête. Voilà, c'est plus après un travail vraiment de volume dessus, c'est plus à mettre en complément d'autres mouvements pour progresser dessus.
Est-ce que tu as la même vision avec juste la force, si on parle de bench, strict press, squat, deadlifts? Est-ce qu'il y a aussi un seuil supérieur où tu es assez fort, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à essayer de pousser constamment?
Je pense, ouais. Alors après, je ne dis pas qu'en gym, quand tu es fort, il ne faut pas trop en faire. Hein. C'est pas loin de là. Hein. Au contraire, même moi, je suis plutôt partisan de, quand tu as un point fort, faut pas qu'il devienne juste point fort. C'est vraiment, tu deviens imbattable dessus.
Ouais.
Parce qu'en compète, en fait, quand tu fais premier, il faut mieux faire premier dernier que moitié-moitié. C'est toujours ce que je dis à mes athlètes. Donc, quand tu as un point fort, faut y aller. Et donc, en force, c'est pareil. Oui, c'est sûr, si tu es très, très fort, tu as peut-être d'autres priorités pour équilibrer ton fitness. Mais faut quand même, faut pas se dire, j'en fais plus pendant 6 mois, quoi. Donc, oui, t'es fort, bah, tant mieux. Profite, fais de la force, sois encore plus fort. Et quand il y a un mouvement un watt de force qui sort, il est pour toi, quoi.
Il y a Explosive Fitness qui demande, est-ce que des cycles d'hypertrophie en off-saison, si oui, combien de temps? Est-ce que c'est pertinent à ton avis pour un crossfitter de faire du travail spécifique en hypertrophie au-delà, je dirais, parce que la manière dont je le vois en tout cas, ou en tout cas je le perçois, le travail d'hypertrophie, c'est du travail accessoire qui est extrêmement bénéfique pour les athlètes de manière générale, santé articulaire, santé musculaire aussi, apport de flux sanguin, etc. C'est extrêmement pertinent de ce côté-là, mais est-ce que tu fais véritablement pour certaines personnes des cycles d'hypertrophie spécifiques?
Ouais, carrément. Typiquement, si tu as un gros problème de force et que tu es un peu débutant dans le fitness général, tu n'as jamais fait de muscu dans le passé, ou tu n'as jamais. Bah, je pense que c'est super important de passer par là avant de commencer à faire de la force pure et dure, quoi. Donc, te préparer un minimum. Après, quand tu es un peu plus avancé, je le prends un peu plus, comme tu as dit, c'est plus pour de la santé articulaire, c'est plus pour voilà, un peu hors saison, t'en refais un peu, mais c'est assez rapide. T'en fais beaucoup moins que si tu débutes un peu dans le fitness et que voilà, t'as besoin de cette partie-là pour prendre de la force par la suite, quoi. Mais voilà, mais oui, dans tous les cas, j'en mets tout le temps à tout niveau, quoi.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait, ou parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, l'hypertrophie, c'était pas nécessairement bienvenu dans une programmation de CrossFit?
Alors, j'en mettais beaucoup moins, mais j'essaie d'en mettre quand même, parce que moi, j'ai fait beaucoup quand même j'ai beaucoup de muscu avant de faire du CrossFit. Je n'ai même que de la muscu avec beaucoup de course à pied. Voilà, c'était le passé un peu militaire qui fait que je faisais beaucoup de ça, mais du coup j'en gardais un peu. Mais c'est vrai que il y a comme tu dis, il y a 10 ans, il y a même 8 ans, je dirais, c'était mal vu. Tu commençais à faire un mouvement un peu de muscu dans une salle de CrossFit, t'as limite le honneur qui venait, il disait tu fais quoi là. C'était un peu ça, c'est vrai, hein, c'était vraiment mal vu. Alors que maintenant il y a beaucoup de salles de CrossFit qui ont des machines de muscu. Et c'est de plus en plus le cas, et je pense que c'est bien.
Ouais, c'est un complément, quoi.
Bah, carrément, c'est super important. Hein.
Il y a Caroline, que tu connais bien, qui demande la préparation mentale nécessaire pour ce sport. Comment tu l'abordes, ce sujet?
Ouais, c'est... Alors, pour l'instant, on n'a jamais fait appel à un coach mental, vraiment, que ce soit pour la team ou... J'ai déjà discuté avec des coachs mentaux pour échanger comme ça, juste par genre connaissance, on va dire, parce que ça m'intéresse. Mais Alors, je ne sais pas s'ils n'en ont pas éprouvé le besoin ou si ce n'est pas encore vraiment ancré dans le CrossFit, tu vois, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est quand même une partie super importante. Parce que bah, voilà, on est tous différents, on a tous des approches différentes. Je pense que moi, j'ai une façon de faire qui, avec des gens, ça passera peut-être pas sur l'aspect justement mental, parce que mon discours, ça ne va pas leur parler. Et peut-être que s'il y avait un intermédiaire avec un coach mental, ça pourrait fonctionner. Enfin, donc ouais, je pense que ça peut être. Alors c'est vraiment difficile. Je pense que c'est pour moi c'est important de bien s'entendre avec son coach, qu'il y ait vraiment une entente, qu'on parle le même discours. Et après le reste, est-ce que faire un appel à quelqu'un d'extérieur, ça peut être bien? Je pense que c'est vraiment propre à chacun, quoi. C'est vraiment si tu en sens le besoin, bah, pourquoi pas tester et puis voir ce que ça donne. Mais je pense que tu peux faire toute une carrière sans forcément aussi faire appel à une aide extérieure. C'est vraiment propre à chacun.
Florence, c'était un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast. J'ai vraiment passé, l'heure est passée très très rapidement.
Ouais, carrément.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur les prog que tu offres et les autres services que tu as, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne?
Eh ben, sur FitProcess, Instagram, Facebook, voilà, fitprocess.prog. On a un site internet aussi, fitprocess.fr, donc il y a toutes les infos dessus. Voilà, moi j'aime bien travailler avec les owners, parce que je pense que c'est une bonne passerelle pour que les gens soient toujours accompagnés. Voilà, travailler directement avec des athlètes dans des box qui font du free, je le fais, mais c'est pas un truc que j'adore, que j'aime. Voilà, moi je préfère que quelqu'un soit accompagné, qu'il ait quelqu'un, on va dire presque tous les jours, avec qui il peut échanger. Même si moi je peux échanger avec lui à distance, mais c'est pas pareil. Donc voilà.
Génial. Bah écoute, merci encore une fois d'être venu sur le podcast. C'était un grand plaisir de t'avoir.
Bah, merci à toi, c'était cool.
À bientôt.
Ciao.
Pour écouter cet épisode, si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!